Le silence se fait, c'est donc le signe qu'il faut commencer. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 14e soirée d'éthique publique des facultés jésuites de Paris, la 5e de cette année universitaire. Je suis heureux de vous accueillir ce soir, familier de cet espace de réflexion et de débat, et c'est vraiment une joie de constater que pour bon nombre d'entre vous, eh bien, ces soirées sont devenues chaque premier mardi de chaque mois un rendez-vous auquel vous tenez. Mais bienvenue aussi à ceux qui sont là ce soir pour la première fois. Ce soir encore, comme à chaque fois, l'objectif est de nous retrouver autour d'une question qui, de près ou de loin, concerne notre rapport à la vie publique, sociale, politique, professionnelle, internationale, de mettre en lumière un certain nombre d'éléments de compréhension et d'analyse de ces situations, mais aussi de pouvoir repérer quelques critères, quelques pistes qui nous permettent de mieux nous situer dans les différentes situations de notre vie, des pistes aussi pour continuer notre réflexion personnelle ou avec d'autres. Le point de départ est donc la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Alors, ceux qui viennent chaque fois sont habitués à entendre dans ma bouche le même propos préliminaire, et je m'en excuse, mais je crois que c'est important de rappeler l'objectif de ces soirées, notamment pour ceux qui viennent la première fois, à commencer par la plupart du temps nos intervenants. Et je vous rappelle qu'il est désormais possible d'écouter ou de réécouter dès le lendemain l'enregistrement de la soirée sur le site internet du Centre Sèvres. Voilà un an et demi environ que la crise financière a éclaté formellement. Ce fut un grand moment d'inquiétude, mais aussi d'interrogation. Comment avons-nous pu en arriver là? De réflexion, de remise en cause, de concertation, les mois ont passé. Avec la forte progression des indices boursiers au cours de l'année 2009 et le remboursement anticipé des aides de l'État aux banques, la grande peur de septembre 2008 semble s'éloigner, même si le monde, nous le savons bien, notre société n'a pas fini de subir toutes les conséquences, notamment économiques, de cette crise. En même temps, on a le sentiment que la vie financière a repris ses habitudes, bonnes et moins bonnes, et l'opinion publique n'est pas toujours certaine que, malgré les promesses et les discours, les règles du jeu aient vraiment changé, et qu'un jour cela ne recommence pas. Alors, quelles leçons avons-nous tirées de la crise en matière de régulation financière, mais aussi plus largement dans le rapport du politique et l'économique, et plus largement encore peut-être dans la réflexion sur nos modes de vie? Pour notre part, nous avons essayé, vous le savez, dans le cadre de ces soirées, d'éclairer ces réalités et ces enjeux. D'abord, certains s'en souviennent, nous avions abordé en décembre de l'année passée, en 2008, donc le thème de la crise financière avec comme question de départ « Sommes-nous prisonniers de la finance ?» avec Jean-Paul Rodouin, vice-gouverneur de la Banque de France, et Dominique Seux, rédacteur en chef des Échos. Évidemment, nous avions abordé la problématique du modèle économique de notre société. Et puis en mai dernier, nous sommes revenus sur cette question à l'occasion de la sortie de l'ouvrage « 20 propositions pour changer le capitalisme », travail de plusieurs économistes, dont Gaël Giraud, qui était donc avec nous ce soir-là, ainsi que Sœur Cécile Renoir, tous deux en débat avec Nicolas Véron, analyste économique. Pour nous aider à continuer notre réflexion ce soir, je suis vraiment très heureux d'accueillir Monsieur Nicolas Bavrez. C'est une première, j'espère que ce ne sera pas une dernière. Nombreux ici sont ceux qui vous lisent ou qui vous écoutent et qui sont sensibles à votre vaste champ de réflexion et d'analyse, qui n'est pas étonnant lorsqu'on connaît votre parcours de juriste, d'économiste, d'historien, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il convient de mettre en premier, normalien de la rue d'Ulm et énarque, vous êtes également docteur en histoire et agrégé de sciences sociales. Votre pensée a été fortement influencée par Raymond Aron, dont vous avez d'ailleurs écrit une biographie. Après quelques années à la Cour des comptes, vous rejoignez le cabinet de Philippe Séguin, lorsqu'il était à l'époque président de l'Assemblée nationale, chargé des problèmes économiques et sociaux. Puis, quelques années plus tard, vous vous dirigez vers le barreau de Paris. Malgré votre métier d'avocat et de conseil dans de grands cabinets d'affaires, vous réussissez à garder du temps pour écrire. Vous êtes chroniqueur pour Le Monde, pour Le Point, pour Les Échos, je crois, mais vous êtes surtout l'auteur de plusieurs ouvrages sur la société française, sur l'impuissance publique, le chômage, des analyses remarquées qui vous vaudront d'être considérés, le mot n'est évidemment pas très beau et je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, comme l'un des chefs de file des déclinistes. Je pense entre autres à La France qui tombe, un constat clinique du déclin français paru en 2003 chez Perrin, Nouveau monde, vieille France en 2006 ou Que faire paru la même année. Mais c'est dans votre dernier ouvrage, paru l'an dernier, toujours chez Perrin, que vous analysez la crise et ses conséquences, ouvrage intitulé « Après le déluge, la grande crise de la mondialisation ». Dans cet ouvrage, vous appelez à combattre la tentation d'un retour aux pratiques anciennes et à engager une transformation profonde du capitalisme mondialisé, alors qu'il n'existe plus, selon vous, de droit à l'erreur compte tenu de la dégradation de la situation financière de la plupart des États. Il s'agit de modifier profondément la régulation du capitalisme en le dotant de principes, d'institutions et de règles permettant d'en conserver le dynamisme tout en stabilisant la mondialisation, en instaurant une mondialisation politique qui fasse contrepoids à la mondialisation économique, l'équilibre et le garantisse. Merci vraiment beaucoup d'être avec nous ce soir malgré un agenda bien chargé, pour nous aider donc à tirer les leçons de cette crise et nous partager les points d'attention et de travail qu'il convient d'avoir aujourd'hui. Gaël Giraud, on l'a déjà présenté il y a quelques mois, mais je le redis quand même ce soir. Gaël Giraud est né en 1970, il est entré dans la Compagnie de Jésus en 2004, également normalien, je suis bien entouré, diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, et docteur en mathématiques appliquées. Gaël Giraud est chercheur au CNRS, membre de l'École d'économie de Paris et du Centre de recherche de mathématiques, statistiques et d'économie mathématique. Nous y sommes arrivés, hein, je ne me suis pas trompé. J'ai bien relu avant parce que j'étais pas sûr. Tout en poursuivant sa formation jésuite, il fait également partie du CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale des jésuites, qui publie la revue Projet. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et articles, dont un livre en 2000 chez Flammarion sur la théorie des jeux. Gaël Giraud travaille depuis des années avec un groupe de praticiens, d'analystes, de connaisseurs de la finance pour réfléchir à des réformes possibles. Et c'est du résultat de ces recherches communes qu'est donc sorti l'ouvrage collectif que j'évoquais tout à l'heure, 20 propositions pour changer le capitalisme, paru chez Flammarion l'année passée. L'an dernier également, tu as été nominé pour le prix du meilleur jeune économiste. Et nous avons été nombreux, lors de la soirée d'éthique publique du mois de mai dernier, à apprécier non seulement tes compétences, mais aussi ton sens de la pédagogie, particulièrement précieux vu la complexité du sujet. Alors tu ne peux donc faire moins ce soir. Je ne te mets pas la pression. Merci en tout cas d'être avec nous alors que tu rentres à peine d'un séjour d'enquête aussi passionnant que fatigant au Nigeria. Sans plus attendre, eh bien, je vous laisse la parole pour 20 minutes environ, chacun, avant, comme nous en avons l'habitude maintenant, d'engager le débat tous ensemble. Et je donne la parole sans plus attendre à Monsieur Nicolas Bavresse.
Bien, merci beaucoup de votre invitation. Si vous le permettez, je dirais juste un mot en prologue, c'est que un des premiers articles que j'ai fait concernant Raymond Aron, c'était un article sur le lien entre Aron et le père Gaston Fessard, puisque tous deux avaient participé à un séminaire de philosophie fameux qui était le séminaire de Kojève, et tous deux avaient réfléchi pour, j'allais dire, un peu alerter la France avant la Seconde Guerre mondiale des périls qui pesaient sur elle. Et Gaston Fessard avait fait une interprétation catholique de la pensée d'Aron en montrant comment, selon lui, le vide, puisqu'il n'y a pas de substrat métaphysique ou transcendant à la liberté chez Aron, que ce vide ne pouvait être comblé que par Dieu. C'est un livre que Aron n'acceptait pas les conclusions, mais Aron pensait que c'était une des interprétations les plus touchantes et les plus intelligentes qui aient été faites de sa pensée. Et il y a quelques jours, quand Jean-Luc Marion est entré à l'Académie française. Il parlait donc, et donc Fessard appliquait à Aron sa fameuse dialectique du chrétien, du païen, et puis du païen, du juif et du catholique. Et il l'appliquait à Aron, et Jean-Luc Marion, qui a prononcé l'éloge de Jean-Marie Lustiger, donc de Aron Jean-Marie Lustiger, en fait, en retraçant la vie de Lustiger, c'était assez étonnant. D'ailleurs, le mot de Fessard a été prononcé parce qu'on retrouvait tout à fait cette dialectique du païen, du juif et puis du chrétien. Et si je me permets d'en parler aussi, c'est que Fessard a été assez souvent critiqué, y compris parmi les siens, y compris au sein de la compagnie à laquelle il appartenait, par son côté décliniste. Rappelez-vous ses livres, France prend garde de perdre ta liberté, France prend garde de perdre ta foi. Et je me permets de le signaler parce que vous voyez que ces livres qui étaient excellents, je pense que les avertissements qu'il a lancés, j'allais dire son engagement au sein de la résistance avec Témoignages chrétiens le montrent bien, mais ça vous montre que assez souvent, on confond, comme le disait Démosthène, les paroles qui sauvent et les paroles qui plaisent. Ça n'est pas parce que la réalité est déplaisante qu'il faut éviter de la dire. Et la dire, ça n'est pas s'enfoncer dans le désespoir, c'est au contraire se donner les moyens de la penser et puis d'essayer de peser sur elle pour améliorer les choses. Ce prologue Fessard étant achevé, je vais me permettre de revenir à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire les leçons tirées de la crise. Donc, volontairement, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de parler des explications de cette crise ou de ses déterminants. Je n'y reviendrai pas. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu aujourd'hui où on en est et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je repartirai d'une phrase de Churchill qui disait la chose suivante: « Il faut prendre l'événement par la main avant qu'il ne vous saisisse à la gorge. » Et les grandes crises comme les grandes guerres partagent ce fait de prendre les dirigeants des nations, les citoyens, les intellectuels, à la gorge et sans avoir prévenu. Ce qui s'est passé, c'est bien la même chose. Donc il ne fait pas de doute que, comme le disait Chateaubriand, toute époque a un principe et que le principe de notre époque, c'est la mondialisation. C'est cette mondialisation qui est entrée en crise. Alors, il y a deux types de crises du capitalisme. Des crises ponctuelles, sectorielles ou géographiquement limitées. La mondialisation, on a connu de nombreuses dans les dernières décennies, 87, 97, la crise dite asiatique, 98, la banqueroute de la Russie, 2000-2001, l'implosion de l'Argentine, 2001, le crack dit des nouvelles technologies. De tous ces chocs, le capitalisme est sorti en 18 mois et sans changement de sa régulation, ce qui ne veut pas dire que ça ait eu des conséquences économiques ou sociales légères, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des pays qui aient rattrapé et d'autres qui se sont retrouvés dans des situations difficiles, mais le système, lui, n'a pas été affecté. Et puis, il y a une deuxième grande catégorie de crise, et celle que nous traversons, je pense, ressortie de cette seconde catégorie, ce sont des crises majeures qui, non seulement ont des conséquences économiques, mais aussi des conséquences sociales, politiques, géopolitiques. Elles affectent la régulation du capitalisme, elles bouleversent la hiérarchie des nations, des continents, et pas seulement au plan économique. Exemple évident, crise de la fin du 19e siècle, les années 1880, grande déflation avec le changement de normes technologiques, le changement de normes sociales, l'émergence de la grande entreprise, du rapport salarial, l'arrivée des pays neufs de l'époque, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili, l'Argentine, et puis également, bien sûr, les pays dits à croissance tardive, la Russie et puis le Japon. Deuxième grand exemple, les années 30, le blocage de l'émergence de la norme de la consommation et de la production de masse qui finalement n'arrivera à émerger avec la régulation keynésienne qu'après la Seconde Guerre mondiale. Troisième grand exemple, les chocs pétroliers des années 70, stagflation, enrayement de la convention keynésienne et naissance justement de cette nouvelle norme de capitalisme qu'est la mondialisation en réaction au blocage de la régulation keynésienne. Je pense que nous sommes dans ce deuxième ordre de crise, ce qui veut dire que nous avons, et nous allons les retrouver dans les leçons, trois couches de problèmes à affronter. Un problème qui est celui de la conjoncture, c'est-à-dire que nous avons bien, notamment dans le monde développé, une crise économique et sociale avec des faillites d'entreprises à haut niveau, un chômage qui va se stabiliser au-delà de 10% de la population active et des politiques d'austérité qui devront s'installer et durer parce que tous nos pays auront plus de 100% du PIB de déficit public et parce que il va bien falloir régler ces dettes, parce que les ménages devront aussi se désendetter, ce qui n'est pas le cas forcément en France, mais ce qui est évidemment le cas au Royaume-Uni, en Espagne ou aux États-Unis. Donc, première couche de problème, la conjoncture, et vous voyez que c'est déjà assez lourd. Deuxième couche, dont on parle beaucoup aujourd'hui avec Obama et son discours sur l'Union, la régulation, et notamment la régulation du secteur financier. Là, on touche à la régulation du capitalisme. Et puis, troisième dimension du problème, la dimension intellectuelle, morale, mais aussi géopolitique, c'est que le capitalisme lui-même, au-delà de sa régulation, va être considérablement affecté dans son modèle économique et puis également dans les moteurs de la croissance et dans la hiérarchie des nations. Donc je voudrais regarder brièvement où nous en sommes aujourd'hui de cette crise. Ensuite, quels sont les scénarios et puis les grands éléments clés qui vont faire bouger et qui vont déterminer entre ces scénarios, c'est les éléments de régulation. Et enfin, les grands changements ou les transformations du capitalisme pour répondre un peu à ces trois séries de problèmes. Alors, où en sommes-nous ? Les choses sont très claires. On peut les résumer en une formule. Le pire est derrière nous, mais le plus difficile est devant nous. Le pire est devant nous, derrière nous. Pourquoi ? Parce que la déflation type années 30, mais à l'échelle du monde, je rappelle que dans les années 30, il y avait une partie du monde qui était d'abord dans l'orbite soviétique, une autre partie qui était en situation d'économie coloniale, et qui a donc été touchée indirectement par la crise économique. Cette fois, c'était bien le même enchaînement. Des erreurs de politique économique, une gigantesque bulle du crédit, et ensuite ce que Irving Fisher a appelé une déflation par la dette, c'est-à-dire une course de vitesse de tous les agents économiques à la réduction de leur dette et qui entraîne une spirale à la baisse de l'activité, de l'emploi, des prix, des investissements. Et c'est cette spirale déflationniste qui s'est mise en place dans les années 30 et tout était réuni pour qu'elle se déclenche de nouveau. Alors, comment l'a-t-on enrayé ? On a appliqué les enseignements des crises du XXe siècle et notamment des années 30. Deux grands économistes, Irving Fisher, 33, la déflation par la dette, John Maynard Keynes, 36, la théorie générale. Et donc, ces économistes nous disent trois choses. Dans ce genre de situation, il faut sauver les banques, enrayer la déflation et éviter le protectionnisme. C'est ce qui a été fait. Donc sur les banques, il y a eu 17 000 milliards de dollars mobilisés dans le monde entier, plan de relance du G20, 5 000 milliards de dollars, et le G20 a également réussi à ce que la mécanique protectionniste ne se mette pas en place comme dans les années 30. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas eu d'alerte, voire les pneus américains, les rétorsions sur les volailles américaines, les pneus chinois d'un côté, donc les volailles américaines de l'autre, mais enfin bref, on n'a pas eu l'équivalent de la loi Hawley en 1930 qui avait augmenté les droits de douane de plus de 50% sur la quasi-totalité des produits industriels. Et ça a marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est sorti de récession. Clairement, cette année, nous allons avoir donc une croissance que le FMI a révisée à 3,4%, mais qui ira sans doute peut-être au-delà à cause du dynamisme des émergents. Donc, la récession a clairement été enrayée, mais j'y viens, c'est le deuxième moment. La crise, elle est certainement pas terminée. Et nous avons aujourd'hui, c'est pour ça que le plus difficile est devant nous, parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de tirer les conséquences ou du passé, mais il s'agit de traiter des problèmes neufs. Trois problèmes neufs. Premièrement, la crise a muté, elle est maintenant économique et sociale. Le monde développé va être durablement avec une croissance comprise entre 1 et 1,5%, un chômage massif et des dettes publiques gigantesques qu'on n'a jamais atteintes en période de paix, qui dépassent 220% pour le Japon, mais qui vont être au-delà de 100% en Europe et aux États-Unis entre 2012 et 2014 et qui vont aller bien au-delà de 200% du PIB. Donc, une crise économique et sociale, et en même temps une des grandes fractures, puisque le monde développé cette année va faire 1% de croissance, la Chine sera autour de 10, l'Inde autour de 8 et le Brésil à 5. Donc, ça donne quand même un état des lieux et des forces. Deuxième couche de problème neuf, nous devons gérer les séquelles de ces interventions publiques. Elles étaient indispensables, elles ont été très bien conduites et on a bien fait. Simplement, création monétaire, nous sommes à taux zéro, c'est-à-dire que nous refaisons exactement ce qui a été fait après 2001. Nous installons des taux zéro et donc nous retournons à l'économie de bulle. Bulle sur les matières premières, bulle sur les dettes publiques, bulle sur les banques centrales, bulle sur l'immobilier en Chine, etc., etc. L'économie, si vous voulez, la bulle est la seule manière que nous avons trouvée pour l'instant de répondre à l'éclatement de la bulle précédente. Deuxième problème, les dettes publiques, je n'y reviens pas, mais on en reparlera. Regardez, Grèce, Japon, ça se tend partout. Les Grecs sont en train d'essayer via Goldman Sachs de négocier avec les Chinois pour récupérer 20 milliards d'euros pour financer leurs dettes. Donc, on entre dans un nouveau monde. Troisième problème, souvent sous-estimé, la mise en place d'un capitalisme d'État non voulu, subi et totalement incontrôlé. L'État est partout, dans l'industrie automobile, dans l'aéronautique, avec des cautions, des garanties, des participations, sans parler du secteur financier. Comment va-t-on gérer la coexistence de ces monstres avec les entreprises privées habituelles? Personne n'en sait rien. Et donc, aujourd'hui, cette cohabitation reste inventée et à stabiliser. Troisième grand problème, la conversion du modèle économique de la mondialisation. J'avais d'un côté des pays qui s'endettaient pour consommer et importer, États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Irlande. De l'autre côté, des pays qui, eux, épargnaient 45% de taux d'épargne en Chine, qui investissaient, et le taux d'investissement gigantesque également, et qui exportaient, accumulant pour la Chine, 2400 milliards de dollars de réserves de change, c'est-à-dire le tiers des réserves de change mondiales. Bon, on voit très bien qu'aujourd'hui, c'est plus le consommateur américain qui va tirer la croissance mondiale comme il l'a fait dans les deux dernières décennies. On a le même problème en Europe, en petit. La croissance européenne, qui était déjà lamentable, puisque elle a été sur la décennie 2000 de 1,1% par an, elle ne tenait qu'à la machine à exporter allemande et puis aux consommateurs espagnols et anglais. Il n'y a plus de consommateurs espagnols et anglais et la machine à exporter allemande, elle va aussi avoir des difficultés. Donc ce modèle, il va bien falloir le modifier et trouver autre chose. Voilà donc la première partie du raisonnement. Donc vous voyez que c'est là où je pense que Summers, qui est le conseiller économique d'Obama, a très bien exprimé ça à Davos. Il a dit « Nous sommes aujourd'hui en croissance statistique, mais en récession humaine ». Et en réalité, la récession, elle n'est pas seulement humaine. Nous sommes également en récession économique et financière parce que nous n'avons réussi cette croissance statistique qu'au prix de déséquilibres gigantesques. Et donc les tensions entre monde développé, monde émergent, qui expliquent d'ailleurs que le prix des matières premières continue pour la première fois à augmenter alors que le monde développé est en récession, parce que c'est le monde émergent aujourd'hui qui tire le capitalisme. Tension entre le secteur public et le secteur privé, c'est pas du tout un triomphe des États. Les États, ils sortent essorés de ce choc pour une raison très simple. On a sauvé le secteur privé en transférant les risques systémiques sur les États. C'est aujourd'hui eux qui les portent. C'est évidemment, on a gagné du temps, mais on n'a pas diminué les risques en les transférant. Et puis tension entre les États qui ont géré cette crise et puis la gouvernance mondiale, puisque on a bien vu que les risques étaient globaux et tous les plans de relance, les politiques monétaires et tout ce qu'on veut, ça a été conduit en réalité à l'échelle des États. La politique monétaire, à l'exception de l'Europe, était intégrée, mais tout le reste, les plans automobiles, les plans aéronautiques, les plans de sauvetage des banques, tout ça, ça a été conduit par les États. Et on en a eu la démonstration à Copenhague, c'est-à-dire qu'à Copenhague, autant le G20 avait permis de commencer à avancer quand même un peu, à Copenhague, je me suis retrouvé avec 192 États pour négocier comme à l'OMC, et évidemment, ça s'est traduit par un échec cinglant. Alors, deuxièmement, quel scénario et quel levier? Donc, il y a trois scénarios pour la mondialisation aujourd'hui. Premièrement, on arrive à la stabiliser, ce qui serait fort heureux parce que, je rappelle que ça a quand même permis de faire ce que tous les tiers-mondistes avaient rêvé mais qui n'ont jamais réussi à faire, c'est-à-dire un décollage extraordinaire du Sud. Sur la décennie 2000, la croissance du monde c'est 3,1%, croissance du Sud 3,6%, croissance des pays développés 2,8%. Donc, et ça a permis de faire sortir de pauvreté des centaines de millions de gens dans le monde. Donc oui, il y a des inégalités à l'intérieur des pays qui ont fortement augmenté, les deux pays les plus inégalitaires du monde, ce sont la Chine et la Russie. Mais n'oubliez pas que la mondialisation, la croissance, ça a permis un progrès humain et du développement comme on n'en a jamais connu, ou en tout cas d'aussi rapide et d'aussi puissant dans l'histoire du capitalisme. Deuxième scénario, l'implosion. Ça, c'est tout à fait possible. Je vous renvoie au début du XXe siècle, la Belle Époque, une phase de mondialisation, la civilisation de l'Europe libérale du XIXe, je l'ai rappelé, une floraison d'innovations technologiques, une ouverture, bref, un très beau mouvement de croissance, l'émergence de la Russie, du Japon, tout va épatamment sur le plan économique, sauf que les nationalismes européens se télescopent et que c'est la Grande Guerre, le suicide de l'Europe, la guerre civile européenne qui se prolonge, et trois quarts de siècle ensuite de fermeture et de difficultés ensuite, puisque on a retrouvé le degré d'ouverture du début du XXe siècle que dans la dernière décennie du XXe siècle. Troisième scénario intermédiaire, la fragmentation, c'est-à-dire que le système se recompose autour de grands blocs unis par des mélanges de rivalité et de coopération. La Chine est en train de structurer sa zone avec une zone de libre-échange et avec la volonté à l'intérieur d'avoir des échanges qui ne soient pas libellés en dollars. L'Amérique du Nord, du Mexique, au Canada, évidemment, États-Unis, tout ça, c'est le même monde. Il y a l'Europe, et puis derrière, on va avoir évidemment l'Inde, le Brésil et l'Amérique latine. Une inconnue sur l'Afrique aussi. Et ensuite, je reviendrai une inconnue sur le rôle de l'Europe dans tout ça. Mais voilà les trois scénarios. Alors, qu'est-ce qui va faire le tri, j'allais dire, entre ces trois évolutions possibles ? La capacité à coordonner les politiques économiques et les États à s'entendre. Bon, on a vu que c'était pas facile sur les plans de relance. On a vu que c'était impossible sur le plan environnemental. Il va bien falloir, si on veut normaliser les politiques monétaires ou les politiques budgétaires, avoir un minimum de coordination, parce que sinon on va avoir des stratégies non coopératives entre les pays, et ça, tôt ou tard, ça se traduira par le protectionnisme, qui est la meilleure manière de faire imploser la mondialisation. Deuxième grand champ, la régulation du secteur financier. Le G20 s'est mis sur, à mon avis, deux problèmes qui sont plutôt des problèmes politiques qu'économiques, c'est-à-dire la rémunération des traders et les paradis fiscaux. C'est pas des risques systémiques. Le risque systémique, c'est le modèle économique des banques, donc leur taille, la concurrence entre les banques, la symbiose entre les activités pour compte propre et les activités des clients, et le hasard moral qui fait que, surtout après Lehman, elles ont pour un demi-siècle la garantie de pouvoir prendre tous les risques sans jamais faire faillite, parce qu'aucun gouvernement ne laissera une grande banque faire faillite dans le demi-siècle qui vient après l'expérience de septembre 2008. Donc jusqu'à présent, on n'avait pas fait grand-chose. Il y a une vraie rupture avec Obama. Alors qui reste confuse, comme toujours avec Obama, parce que on ne sait pas quel est le périmètre auquel ça s'applique, mais il a clairement posé le problème de la taille des banques, de la concurrence entre les établissements bancaires, de la séparation entre le compte propre et le reste des activités. Donc si on mélange ça avec les réflexions Bâle 2-3 sur les fonds propres et les normes comptables et prudentielles, on a là une vraie piste qui peut permettre de faire bouger ce système. Conversion du modèle de la mondialisation, j'en ai parlé, avec le problème de l'écart entre le monde développé, les émergents, le privé et le public, et tout ça finalement renvoie à la dernière question qui est la gouvernance du capitalisme universel. Le G20 a quand même marqué des progrès tout à fait considérables. On a réussi à faire la réforme du FMI que systématiquement on reportait depuis deux décennies. On a une institution qui permet quand même de prendre des décisions, même si elles ne sont pas parfaites, même si elles doivent, si l'agenda du G20 doit intégrer les monnaies. Et puis de l'autre côté, on a deux échecs. Doha, l'OMC qui n'arrive pas. Je rappelle que ça fait plus de 10 ans qu'on négocie sans aucun résultat. Et deuxièmement, Copenhague avec également un échec des 192 nations. Alors, point 3, comment est-ce que ce capitalisme va se... Puisque le capitalisme, c'est pas une essence éternelle, il n'a cessé de muter. Depuis qu'on l'a inventé au XVIIe siècle, on a eu la première révolution industrielle, ensuite la montée de la grande industrie du rapport salarial, ensuite production, consommation de masse, le modèle fordiste, le modèle de la mondialisation, et donc c'est d'ailleurs pour ça que le capitalisme a trouvé les antidotes aux prédictions marxistes, c'est-à-dire que, oui, le capitalisme génère des crises, mais les crises sont le moyen pour lui de se remettre en question, de se régénérer, de se réinventer et de traiter justement les déséquilibres que sa dynamique forme. Aujourd'hui, il me semble qu'on peut voir trois sources de croissance pour les décennies qui viennent. La première, la plus importante, c'est le consommateur du Sud. Aujourd'hui, on a en Asie des centaines de millions de gens qui forment une nouvelle classe moyenne, mais on en a aussi en Europe centrale et orientale, on en a aussi en Amérique latine, on en a aussi en Afrique ou au Maghreb, où on voit, contrairement à ce qu'on pense en France, l'Afrique n'est pas du tout un continent perdu pour ni pour la démocratie ni pour le développement. Je vous rappelle qu'en 2007, la croissance de l'Afrique, continent totalement méprisé chez nous, c'était 6,2%. La France a jamais fait 2% de croissance depuis très longtemps. Donc, c'est peut-être pas terrible comme performance, mais c'est quand même 3 fois, 4 fois mieux que la performance moyenne. Je vous rappelle que, par exemple, la zone euro sur la décennie 2000, c'est 1,1% de croissance par an. Donc, le consommateur du Sud. Ça suppose de le stabiliser. Les Chinois ont commencé. Il faut que la Chine fasse comme l'Europe, c'est-à-dire qu'on solvabilise la demande avec la mise en place d'un État-providence. Ils commencent, mais ils commencent de manière plus responsable que nous parce qu'ils savent qu'ils vont devenir vieux avant de devenir riches. Et donc, il est hors de question pour eux de mettre en place une bombe démographique et financière du type des régimes de retraite français. Deuxième aspect, la croissance verte. Pour l'instant, elle a obéi à des bulles spéculatives stupides, c'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent public pour rien sur des biocarburants qui sont ruineux pour l'environnement, pour les éoliennes, avec des entreprises comme la Compagnie du Vent qui porte bien son nom. Vous avez vu récemment sur le solaire où on a dû, parce que l'État changeait le système de subvention, il y a eu le dépôt de dizaines de milliers de dossiers, il y en avait pour 56 milliards d'euros si on l'actualisait sur la durée du... Donc vous voyez les vices de l'économie subventionnée, mais l'économie verte, c'est un peu comme Internet si vous voulez. Internet, on a commencé avec des start-up débiles où il n'y avait ni travail ni profit, on vendait un capital qui n'existait pas, et puis maintenant l'économie Internet, elle existe, elle est rentable et elle permet de faire des gains de productivité. Le vert, c'est la même chose. On a commencé par la bulle, par toute une série de... Maintenant, il y a des choses sérieuses. Les immeubles à énergie positive. Bref, l'économie verte commencera à devenir sérieuse quand elle fera des projets économiquement rentables et non forcément subventionnés par la puissance publique. Troisièmement, l'économie de la connaissance. Bon, ça, c'est assez classique. Voilà un peu les piliers de la croissance. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est bien sûr la mutation formidable de ce capitalisme et les vraies ruptures qui sont derrière. C'est-à-dire que cette crise, c'est bien aussi un changement de monde qui n'est pas que réjouissant pour nous, mais après tout, c'est bien normal. Donc, premièrement, c'est la fin de le mythe de l'autorégulation des marchés qui a fonctionné dans la première période de la mondialisation. Deuxièmement, déclin relatif des États-Unis et montée en puissance de l'Asie très forte. Donc les émergents sur la décennie 2000, je vous ai rappelé l'Europe c'est 1,1, les émergents c'est 5,9, les pays développés c'est 1,5 et les États-Unis 1,7. Donc vous voyez l'écart de croissance et qui va évidemment s'accélérer encore pendant la décennie 2010 telle qu'elle est engagée. Et derrière, un changement historique considérable. On a cessé, notamment dans notre pays, de critiquer le capitalisme, mais si vous voulez, c'était une rente extraordinaire que d'en avoir le monopole. Et donc, l'Occident a eu le monopole du capitalisme depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui, les autres ont compris. C'est vrai qu'ils le gèrent de manière très différente de la nôtre. Les institutions sont différentes, les valeurs sont différentes. Ils l'acclimatent dans des systèmes qui refusent la liberté politique, mais il n'empêche que... On n'arrêtera pas le fait que ce capitalisme est devenu universel et n'est plus aujourd'hui la chose de l'Occident. Depuis 1945, on a géré le capitalisme réassurance américaine, Europe et Japon sur un strapontin. Au XXIe siècle, ça va être États-Unis, Chine, Inde, Brésil sur le strapontin, Russie, qui est juste un émirat pétrolier un peu à l'écart, et l'Europe, si elle continue à accumuler vieillissement démographique, surendettement, sous-compétitivité, monnaie surévaluée, et absence de système de décision politique, eh ben, c'est pas du tout sûr qu'elle soit encore sur un strapontin, et elle peut tout à fait filer en troisième division. Donc, il faut quand même avoir, si vous voulez, c'est ce pack des mots, regardez ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Moi, je vous renvoie à des choses concrètes. Abu Dhabi, la filière d'excellence par excellence française, le nucléaire, bon, eh ben, c'est la Corée du Sud qui ramasse les 20 milliards de contrats. Les Chinois ont mis en place le train le plus rapide du monde. Troisième élément, ils fabriquent leur avion avec certes des moteurs européens, mais qui, comme ils font la moitié du marché mondial, c'est certain que... Et dernière chose, dernière concession autoroutière mise en concurrence en Europe, en Pologne, c'est une entreprise chinoise qui a gagné l'appel d'offres. Donc, si on veut pas comprendre, on veut pas comprendre, mais ensuite, il faudra pas gémir. Et donc, c'est ce basculement vers l'Asie qui est très spectaculaire. Et alors, entendez-moi bien, je vous l'ai dit pour l'Afrique, il n'y a pas de continent qui soit perdu pour le développement, etc. Il y a plein de choses intelligentes à faire en Europe, il y a beaucoup de créativité, mais simplement, si on ne se remet pas en question, eh ben, les choses vont évidemment très mal se passer. Je finirai par la citation qui était le cœur du discours du New Deal de Roosevelt, qui était la suivante, la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Et c'est vrai que ces grandes crises sont aussi amorces des peurs considérables, des peurs qui sont économiques, avec le nouveau péril jaune, la Chine après le Japon dans les années 30, avec des peurs également qui sont politiques, voire le référendum sur les minarets en Suisse. Et donc, il faut voir que la contrepartie de ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire croissance faible, chômage élevé, austérité dans les pays développés, c'est que nous allons avoir du populisme, du protectionnisme également, durablement dans ces pays. Comment résister? Eh bien, comment résister? C'est la leçon d'Aaron et Fessard. Il y a deux choses auxquelles il ne faut pas renoncer. C'est la liberté et la raison. C'est le problème des dirigeants, mais c'est aussi le problème des citoyens. Merci beaucoup.
Un très grand merci, Monsieur Bavrez, pour vos propos. Merci de nous avoir aidés à prendre la mesure, s'il en était besoin, peut-être de la gravité de cette crise majeure aux conséquences économiques, politiques, géopolitiques, avec les trois couches de problèmes que vous avez mis en lumière, celui de la conjoncture, celui de la régulation et bien sûr celui des changements du capitalisme. Alors un monde qui est sorti de la récession, mais en même temps la crise est devant nous, que cette crise a muté, que ça pose un certain nombre évidemment de questions pour gérer les séquelles des interventions publiques. C'est bien sûr la place du rôle des États qui sortent affaiblis de tout cela. C'est finalement aussi toute la question de la conversion du modèle économique de la mondialisation. Alors à travers tout cela, eh bien... On se dit effectivement que ce capitalisme occupe désormais tout l'espace, qu'il est devenu universel, et que nous comprenons bien, je crois que nous avons bien compris que pour vous, il était important que l'Europe se réveille. Alors nous allons essayer de ne pas renoncer ni à la liberté ni à la raison. En tout cas, nous allons essayer de continuer à réfléchir ensemble ce soir. Et je laisse sans plus attendre la parole à Gaël.
Merci. Je suis presque aussi pessimiste que M. Bavrez, mais différemment. Je vais essayer d'aborder trois points. Le premier, je vais être très bref, puisque M. Bavrez en a déjà parlé, c'est ce que nous avons bien appris. Le deuxième point, ce que nous sommes en train d'essayer d'apprendre. Et le troisième, ce qui nous reste à apprendre. Le premier point, ce que, je crois, nous pouvons dire, nous avons effectivement appris des crises précédentes, à ceci près que ça n'est probablement pas de la crise de 2008-2009, mais de la crise de 29. Nous n'avons pas répété, comme l'a dit M. Bavrez, les erreurs de 1929, qui peuvent se résumer à deux, essentiellement. La première, c'est d'avoir, en gros, tardé à sauver le système bancaire, au début des années 30. Et la deuxième, c'est d'avoir tardé à mettre en place des politiques de relance. Nous n'avons fait aucune de ces deux erreurs. Les banques centrales sont intervenues de manière massive, aussi bien aux États-Unis, en Europe, en Suisse, en Angleterre, pour à la fois sauver les banques et injecté des liquidités sur les marchés qui étaient asséchés par la perte de confiance entre les banques, ce qui a permis de sauver quand même majoritairement le système bancaire, à l'exception notable de Lehman Brothers, sur laquelle je reviendrai. Et puis, nous avons mis en place, en tout cas un certain nombre de pays ont mis en place des plans de relance inouïs, qui n'avaient jamais été observés jusqu'à présent, en particulier aux États-Unis et en Chine, beaucoup plus modestes en Europe. Donc, on pourrait dire, on a tiré les leçons des erreurs de 1929, enfin du début des années 30. Donc, je ne reviens pas dessus. Deuxième point, je vais être beaucoup plus long, ce que nous sommes en train d'essayer d'apprendre, c'est-à-dire vraiment les leçons que nous sommes en train d'essayer de tirer de la crise, non pas de 29, mais de l'année dernière. Et je crois que le discours de l'Union que vient de lancer Barack Obama et les suggestions qu'il a faites vont dans ce sens-là. En gros, l'idée principale, c'est de dire qu'il faut obliger les banques à ne plus travailler comme des fonds spéculatifs et à ne pas d'abord travailler pour leurs propres capitaux propres, mais effectivement à travailler pour leurs clients. J'explique en quelques mots l'origine du problème. Les banques, comme vous le savez, donc gèrent les risques des clients dont elles détiennent le portefeuille. Et parce qu'elles gèrent ces risques, elles sont tenues d'avoir un certain nombre de capitaux propres qui leur appartiennent. À partir de depuis l'an dernier, un certain nombre de nouvelles règles prudentielles sont à la réflexion pour obliger ces banques à immobiliser beaucoup plus de capitaux propres qu'elles ne l'ont fait jusqu'à présent, essayer de les empêcher de contourner les règles qui les obligeaient à immobiliser une certaine quantité de capital propre en fonction du risque qu'elles prennent. On s'est rendu compte, à la faveur de la crise de 2008-2009, qu'en réalité, les banques avaient trouvé plein de subterfuges pour circonvenir cette règle-là. Donc, on a essayé de mettre de nouvelles règles, et puis surtout, de rendre les règles sur les capitaux propres contracycliques, puisqu'on s'est rendu compte en 2008 que, au fur et à mesure que la situation des bilans des banques se dégradait, elles étaient obligées de capitaliser davantage de fonds propres, ce qui provoquait une nouvelle dégradation de leur bilan. Donc les règles qu'on employait jusqu'en 2008 pour la constitution des fonds propres faisaient empirer la situation dans les mauvais jours. Alors, de ce point de vue-là, on a essayé, me semble-t-il, en tout cas on essaye au niveau des régulateurs, de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2008 en modifiant les règles du jeu sur les capitaux propres dont doivent disposer les banques quand elles prennent des risques. Il n'empêche qu'il restait quand même une dimension de fond, qui est celle à laquelle a fait allusion Barack Obama, et je crois qu'on peut souhaiter qu'il arrive à passer sa loi, qui est que la plupart des grosses banques d'investissement aujourd'hui travaillent autant, sinon davantage, comme des fonds spéculatifs, des hedge funds, c'est-à-dire des institutions qui cherchent surtout à maximiser le rendement de leurs propres capitaux propres, plutôt que celui du portefeuille de leurs clients. Je donne un exemple qui, me semble-t-il, illustre ceci de manière assez effrayante. C'est celui d'une banque américaine qui s'appelle CIT. CIT était une banque qui faisait du prêt auprès des PME. Donc c'est le type de banque qui joue un rôle crucial dans la transmission de liquidités auprès du secteur réel de l'économie. CIT a été prise dans la tourmente en 2008 et pour survivre s'est endettée considérablement auprès de la plus grosse banque du monde aujourd'hui qui est Goldman Sachs. Et à l'été 2009, donc l'été dernier, CIT se rend compte qu'elle a 2 milliards de dollars de dettes vis-à-vis de Goldman Sachs, qu'elle est incapable de rembourser. Alors CIT envoie des avocats discuter avec les avocats de Goldman en se disant « c'est évidemment pas dans l'intérêt de Goldman Sachs de nous faire couler et de perdre sèchement 2 milliards. On va pouvoir rééchelonner la dette, négocier, etc. » Et puis, à la grande surprise de tout le monde, les avocats de Goldman sont intraitables et finalement, CIT fait faillite. Alors, donc les avocats et les spécialistes de CIT ont essayé de se renseigner, de comprendre pourquoi Goldman avait été si dur à la négociation. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en 2008, au moment même où Goldman Sachs prêtait de l'argent à CIT, Goldman Sachs pariait sur des marchés de crédits financiers, donc d'actifs dérivés sur les dettes des banques, sur la faillite de CIT. De sorte que Goldman Sachs gagnait in fine 3 milliards si CIT faisait faillite. Donc soit elle sauvait CIT pour ne récupérer qu'au mieux 2 milliards, soit elle laissait CIT faire faillite et gagner 3 milliards sur les marchés qu'on appelle les marchés de CDS, de CDS. Vous voyez ? Alors, ça pourrait paraître anecdotique, je crois que c'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes banques. Donc manifestement, Goldman Sachs n'a pas travaillé pour l'intérêt de son client et a essayé de maximiser le rendement de ses propres fonds propres. Alors, quand vous en parlez aux banquiers parisiens, cette question-là, ils vous disent « Ah oui, c'est très, très problématique ». Et évidemment, ils sont un peu embêtés parce qu'il y a fort à parier que les grandes banques européennes et aussi françaises font exactement la même chose. Un autre exemple, qui est encore plus effrayant, c'est la chute de Lehman Brothers. Donc, comme vous le savez, Lehman était une des cinq plus grandes banques du monde, a fait faillite le 15 septembre 2008. Et on s'est rendu compte, au moment où Lehman a fait faillite, qu'il y avait un certain nombre de petits malins sur ces mêmes marchés d'actifs dérivés qui avaient parié sur la faillite de Lehman 49 fois, enfin 50 fois en fait, plus exactement. Donc 49 fois par des gens qui ne portaient aucune dette de Lehman, donc ils n'avaient aucun risque à couvrir au cas où Lehman ferait faillite. De sorte qu'au moment où Lehman Brothers a fait faillite, il a fallu rembourser non pas une fois, mais 50 fois la dette de Lehman à des gens qui avaient parié et qui ont gagné sur la dette de Lehman. Vous voyez ? Voilà. Alors, là, il y a un véritable enjeu qui est d'interdire ce type de pratique qui me semble gravissime au sens où elle met en péril la confiance même que vous pouvez avoir avec un banquier. Si au moment où le banquier vous prête de l'argent, qui que vous soyez, un État, une entreprise, un particulier, si au moment même où il vous prête de l'argent, il peut parier contre vous avec l'espoir que vous ne serez pas capable de rembourser, comment voulez-vous entrer dans une relation contractuelle de confiance avec ce banquier ? Ce qui pose une autre question de fond que je laisse à votre réflexion qui est: dans notre société fondée sur des contrats marchands, qu'est-ce qui permet à un contrat de tenir ? Est-ce que ça n'est pas d'abord la confiance que nous nous faisons mutuellement, plutôt que le contrat lui-même ? Et vous voyez qu'il y a une espèce d'utopie libertarienne qui consisterait à croire que c'est le contrat qui nous permet de nous faire confiance. La pratique des banques aujourd'hui montre le contraire, je crois. C'est parce que nous pouvons nous faire confiance que nous sommes capables d'entrer en alliance et de signer entre nous des contrats. La présence de ces marchés d'actifs dérivés qui permettent à une banque de prendre position contre vous au moment même où elle entre en relation contractuelle avec vous rend impossible la confiance minimale, indispensable, pour signer un contrat, me semble-t-il. Il n'empêche que ce que envisage Barack Obama ne permet pas complètement de régler ce problème-là, puisqu'il interdira ou il limitera simplement les activités de fonds propres des banques, mais il ne permettra pas de faire la lumière sur ces fameux marchés d'actifs dérivés auxquels je viens de faire allusion. Et je crois que l'une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est que aucune réforme n'a été mise en place aujourd'hui sur ces marchés-là. Tous ces marchés sont des marchés qu'on appelle des marchés de gré à gré, ou des marchés OTC en anglais, qui sont complètement opaques, sur lesquels vous n'avez pas de régulateur. Personne ne sait exactement ce qui s'y traite. Et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, les autorités américaines ont laissé tomber Lehman. Elles ne savaient absolument pas à l'époque que 50 fois la dette de Lehman était traitée au même moment sur ces fameux marchés. Oui. Il n'est pas impossible du tout qu'aujourd'hui, un certain nombre d'investisseurs parient sur le défaut de la Grèce. C'est tout à fait possible d'échanger des CDS, donc ces fameux actifs dérivés, dans la plus grande opacité, en pariant sur la faillite de la Grèce. Oui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui autour de la question de la dette publique grecque me semble gravissime. Il est tout à fait possible que demain matin, les marchés financiers décident, pour quelque raison que ce soit, que finalement, la Grèce n'est pas crédible, elle ne pourra pas rembourser sa dette. Donc, on va faire exploser le coût de refinancement, enfin, je veux dire, sur les marchés financiers, le coût de refinancement de la dette grecque va exploser. Il est déjà très élevé. Du coup, la Grèce sera effectivement dans l'impossibilité d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers, ce qui provoquera le défaut de la Grèce. Oui. La question n'est pas de savoir si une analyse profonde fondée sur les fondamentaux de l'économie grecque permettrait de conclure qu'aujourd'hui, vraiment, la dette grecque est trop élevée. La question, c'est quel vent de panique peut souffler sur les marchés financiers de telle sorte que du jour au lendemain, ils décident que tel État, telle entreprise n'est plus crédible et que ce que produit cet État, ce que produit cette entreprise ne vaut plus rien. C'est le fameux phénomène des taches solaires dont j'ai déjà parlé. Je vous rappelle juste en une minute de quoi il s'agit. Supposez que vous ayez un présentateur télévisé qui, au journal de 20h, demain soir, dise, d'un air très sérieux, « Mesdames et messieurs, demain matin, le cours de la dette grecque va s'effondrer parce que des astrophysiciens français ont vu des taches sur le soleil cet après-midi. » Alors, évidemment, supposez que vous soyez trader, vous traitez justement des actifs qui sont liés à la dette souveraine grecque sur les marchés, vous vous dites, enfin vraiment, il a manqué une occasion de se taire. Moi qui suis éduqué, je sais très bien qu'il n'y a aucune relation de causalité entre les taches à la surface du soleil, qui sont dues à des différentiels de température, et puis le cours de la dette grecque. Mais au moment d'aller vous coucher, vous vous dites quand même, il y a des millions de gens qui ont regardé le journal de 20h, et puis si on peut plus se fier à ce qui se dit au journal de 20h, à qui pourra-t-on se fier dans ce pays ? Donc, moi qui sais très bien que ça n'a rien à voir, quand même, je suis peut-être que beaucoup de mes petits collègues sur les marchés financiers demain matin vont vendre massivement la dette grecque parce qu'ils vont paniquer à cause de ce qu'a dit le présentateur cette nuit, enfin hier soir. Et donc, bien que vous sachiez que c'est idiot, demain matin, il se peut très bien que vous vendiez vous aussi la dette grecque. Et donc, vous allez contribuer vous aussi au vent de panique qui va de facto provoquer l'effondrement du cours de la dette grecque et donc le défaut de la Grèce. Et puis, le lendemain soir, le même présentateur télévisé pourra dire, tout sourire, « Mesdames et messieurs, je vous l'avais bien dit, hier nous avions observé des taches sur le soleil, et ce matin, le cours de la Grèce s'est effondré. Le cours de la dette grecque s'est effondré. » Vous voyez ? Alors, ce type de phénomène qu'on appelle par métaphore des taches solaires, c'est très courant dans les marchés financiers. Ça arrive tous les jours. Vous vous souvenez de la fameuse, du fameux épisode où Bush fils avait provoqué l'effondrement du yen pendant quelques heures parce qu'il avait fait un lapsus entre dévaluation et dévalorisation. Alors, il avait joué exactement le rôle du présentateur télévisé. Et comme tout le monde s'était dit, ah, mais si c'est Bush qui le dit, c'est que c'est vrai. Même si vous pensiez qu'il venait de dire une ânerie, vous aviez intérêt à suivre le marché. Vous voyez ? Alan Greenspan, qui a été le patron de la Banque centrale américaine pendant des années, a joué pendant des années le rôle du présentateur télévisé. Dès qu'il faisait un discours, toutes les télévisions de toutes les salles de marché s'allumaient et on écoutait ce que disait Greenspan. Quand il souriait, les cours montaient et dès qu'il toussait, les cours baissaient. Vous voyez ? Et tout le monde disait, mais vraiment, c'est un magicien, ce type anticipe les marchés financiers à la seconde, il est vraiment génial. Vous voyez ? En réalité, il était juste placé dans la position du présentateur de télévision qui peut à lui seul provoquer une bulle spéculative à la hausse ou à la baisse sur à peu près n'importe quoi. Vous voyez ? Alors, pour éviter ça, je pense qu'il est indispensable qu'on prenne conscience de la dangerosité des marchés sur lesquels on échange ces fameux dérivés, notamment les CDS, qui ont tant profité à un certain nombre d'investisseurs financiers au moment de la chute de Lehman, qui ont rendu possible la chute de CIT, qui pourraient rendre possible demain matin la chute d'un État. Ça n'est absolument pas exclu. Il y a même des gens aujourd'hui qui échangent et qui vous vendent des CDS sur la chute des États-Unis, sur le défaut des États-Unis, qui vous disent, regardez quand même, quand vous voyez la dette américaine, et c'est vrai, quand vous voyez le dollar qui s'effondre, et c'est vrai, combien de temps la Chine, comme l'a rappelé M. Bavrez, va-t-elle soutenir à bout de bras le dollar pour conserver de la valeur à ses propres excédents commerciaux, on ne sait pas. Le jour où elle arrêtera de le faire, le cours du dollar s'effondrera, et très probablement également, le cours de la dette américaine. Vous voyez ? Et donc ces gens-là vous vendent des CDS, c'est-à-dire de la protection financière, pour le cas où les États-Unis, un jour, seraient déclarés en défaut. Alors qu'on se demande bien qui sera encore survivant à cette période-là, si jamais ceci devait arriver un jour. Vous voyez ? Voilà. Alors, on est en train d'apprendre sur toutes ces questions-là. Je pense que le chemin est encore long, c'est-à-dire que, par exemple, ce que je viens de dire à l'instant, la réglementation des marchés OTC, pour l'instant, n'est pas véritablement à l'ordre du jour, ni du G20, ni des commissions internationales ad hoc qu'on est en train de créer, en particulier aux États-Unis, sur un certain nombre de questions liées à la réglementation financière. Ce chantier-là est immense et nous avons encore beaucoup, je crois, beaucoup à apprendre. Troisième point. Ce sur quoi nous n'avons pas commencé encore d'apprendre quoi que ce soit, alors que ce serait, à mon avis, urgent. Donc j'ai essayé de le dire dans le premier point, nous avons appris, mais c'était de la crise de 29. Deuxième point, nous sommes en train péniblement d'essayer d'apprendre un petit peu, de tirer les leçons de la crise de l'an dernier. Troisième point, il y a d'autres crises qui sont actuellement très très violentes et sur lesquelles, manifestement, nous n'avons pas commencé à apprendre. La première, c'est, me semble-t-il, la crise énergétique. La deuxième, c'est, M. Bavrez y a fait allusion tout à l'heure, la crise de la demande mondiale. Et la troisième, la crise écologique. Alors, je commence par la troisième, qui est paradoxalement la plus simple. Si je prends comme critère, comme mesure, l'empreinte écologique. Alors vous savez à peu près ce que c'est l'empreinte écologique. Vous convertissez en surface cultivable le coût d'une activité économique en termes d'énergie renouvelable. Donc vous regardez quelle quantité de surface il faut mobiliser pour renouveler l'énergie renouvelable que vous êtes en train de détruire au moment où vous exercez une activité économique. Des experts ont fait les calculs. Si on voulait que la totalité de la planète, la totalité des habitants de la planète en 2006, c'est-à-dire même plus en 2010, mais en 2006, vivre avec le niveau de vie des Européens, il faudrait la surface de 3 planètes Terre. Si on voulait qu'ils vivent avec le niveau de vie des Américains, il en faudrait 5. Donc, ce type de raisonnement, alors après on peut discuter, vous savez que bon, après les économistes aiment beaucoup pinailler sur la question de la mesure, de la méthodologie, du calcul, voilà. Je vous épargne tout ça. Je crois que ce type de réflexion très simple montre une chose, c'est que le mythe de la croissance indéfinie doit cesser. Il faut qu'on renonce à ce mythe-là. Il n'est pas possible de nous promettre à nous-mêmes, ainsi qu'aux pays en développement, dits en développement, un chemin de croissance comme celui que nous avons connu depuis 2 siècles. Voilà. Une autre manière de le dire, c'est que la révolution industrielle au XVIIIe ou XIXe siècle nous a entretenus dans l'illusion qu'il serait possible indéfiniment de nous jouer, enfin de ne plus tenir compte de la fameuse loi de Malthus. C'était un révérend, un pasteur protestant, Thomas Malthus, qui dit en gros, pour dire les choses très simples, très simplement, quand vous avez une quantité limitée de ressources à votre disposition et une population qui augmente, soit vous trouvez un moyen de faire diminuer la pression démographique, alors vous tuez les gens, vous faites des guerres, soit vous faites du partage des biens. Mais vous ne pouvez pas espérer que tout le monde puisse continuer de croître avec le même niveau de vie alors que les ressources sont limitées. La révolution industrielle nous a fait croire pendant 2 siècles que nous pourrions, comment dire, d'une certaine manière briser la loi de Malthus et produire de nous-mêmes, par notre propre activité économique, les ressources dont nous avons besoin. La contrainte écologique, me semble-t-il, montre que ceci n'est pas possible. Donc il faut y renoncer. Et il faut, dès aujourd'hui, transformer nos modes de vie, de production, de consommation, de manière à nous adapter à une contrainte écologique avec laquelle nous ne pouvons pas jouer. Ce qui veut dire que tous les plans, me semble-t-il, en tout cas, tous les plans macroéconomiques grandioses où on espère que la croissance de la planète sera de 3%, 2%, 1%, et on s'étripe là-dessus, ces plans-là ne sont pas réalistes, me semble-t-il, à hauteur de 50 ans. Il n'est même pas souhaitable que nous ayons une croissance de 3%, ça voudrait dire la destruction de la planète. Donc là, il y a, si vous voulez, je crois, y compris du côté des économistes, je parle pour moi, évidemment, il y a une révolution mentale à faire, c'est comment concevoir une économie dans laquelle la croissance, par exemple la croissance du PIB, ne soit pas l'alpha et l'oméga de l'évolution de l'économie. Deuxième question, la question énergétique. Là aussi, il y a d'immenses débats, donc je vous donne mon point de vue, mais qui est évidemment discutable, c'est que nous allons vers des années, ou des décennies en tout cas, où le coût de l'énergie va croître énormément et finir par exploser, pour des raisons également techniques, très, très, très probables. Le coût du pétrole devrait exploser au plus tard dans les années 2025. Pour la raison suivante, il y aura encore beaucoup de pétrole sur la planète en 2025, mais il va devenir de plus en plus cher de produire du pétrole, c'est de plus en plus coûteux techniquement. Par ailleurs, la demande de pétrole quotidienne augmente, et en gros, les compagnies pétrolières sont d'accord pour dire qu'au plus tard en 2025, il ne sera pas possible techniquement de produire tous les jours autant de millions de barils de pétrole qu'il en faudra pour satisfaire la demande globale. Donc, au plus tard en 2025, et un certain nombre de pétroliers pessimistes pensent que ça pourrait être en 2015, la demande quotidienne mondiale de pétrole sera supérieure à l'offre techniquement réalisable mondiale de pétrole. Ce qui veut dire évidemment une explosion du prix du pétrole. Alors là-dessus s'engage évidemment tout le débat sur les énergies de substitution. Je ne rentre pas là-dedans, mais je dis simplement que voilà, là aussi c'est un enjeu phénoménal pour nos sociétés. Essayons d'imaginer un instant à quoi pourraient ressembler nos sociétés sans pétrole, ou avec un pétrole très très cher. Regardez la quantité des biens que vous consommez tous les jours, qui ont eu besoin du pétrole pour circuler, pour arriver jusqu'à vous, pour être produits, etc. Voilà. Troisième enjeu, la question de la demande globale. Donc, M. Bavrez y a fait allusion tout à l'heure. Depuis, disons, une trentaine d'années au moins, c'était évidemment les consommateurs américains qui étaient, en gros, les consommateurs en dernier ressort de la planète. Depuis le milieu des années 90, on se rend compte qu'ils n'y arrivent plus, ils ne consomment pas assez, d'où cette idée, apparemment géniale à l'époque, de développer le crédit à la consommation, pour leur permettre de continuer à consommer davantage, bien qu'ils n'aient plus suffisamment d'argent, enfin de richesse à leur disposition pour consommer. Et puis, on a vu ce qu'a donné le crédit à la consommation, c'est-à-dire une énorme bulle spéculative entre 2002 et 2007, 2008, qui a explosé. Aujourd'hui, on sait aujourd'hui les conséquences qu'elle a eues. N'empêche que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la manière dont nous avons appris, et de 1929, et des errements des années précédentes et la manière dont nous pouvons essayer d'apprendre pour ce qui concerne la réglementation des marchés financiers, ceci ne nous fait pas avancer d'un centimètre sur la question fondamentale qui est comment renouveler la demande globale, la demande mondiale. Alors, M. Bavrez a lancé une piste tout à l'heure qui serait, par exemple, le consommateur chinois ou le consommateur des BRIC, d'un certain nombre de pays en développement. Il me semble que, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la contrainte écologique, c'est extrêmement, problématique. On ne peut pas espérer, me semble-t-il, que d'ici quelques années, les Chinois se mettent à consommer, au moins qu'il y ait une grande classe moyenne chinoise qui se mette à consommer de la même manière que les Américains, parce que ce serait le plus sûr moyen de détruire la planète. Donc il faut inventer autre chose, et ça rejoint la question de la croissance, à laquelle, me semble-t-il, il faut renoncer. Il faut inventer autre chose où tirer une économie par la demande ne soit plus le seul moyen d'avoir des emplois. Je dis ceci parce que je ne suis pas du tout un défenseur des thèses de la décroissance. Pour la raison suivante, c'est qu'un pays en décroissance, je me demande bien ce qu'on va pouvoir faire avec les millions de chômeurs qu'il connaît. Et on voit déjà ça dans un certain nombre de pays, y compris le nôtre. Donc ce que je suis en train de dire n'est pas un plaidoyer en faveur de la décroissance, mais en faveur de, disons, alors là je dis ça de manière très très abstraite, hein, inventer un autre mode de socialisation dans lequel on puisse à la fois ne pas connaître une croissance dont on rêve qu'elle soit indéfinie, parce que c'est impossible, et faire en sorte que le chômage de ceux qui ne seraient pas employés ne soit pas une catastrophe sociale. Ce qui veut dire trouver des modes de socialisation qui ne passent pas forcément par le travail salarié, etc. Là, tout est à inventer, mais je crois que nous y sommes vraiment contraints. Voilà.
Ce qui est bien avec les normaliens, c'est la clarté des propos. En tout cas, avec ceux qui sont à la table ce soir, et je crois que ça nous aide beaucoup quand même à réfléchir. Ce que nous avons appris, eh bien, nous avons compris qu'on n'avait pas reproduit les erreurs de 29, ce qui est quand même un petit peu encourageant sur nos capacités à faire face à la suite. Ce que nous sommes en train d'apprendre, eh bien, sûrement qu'il y a cette nécessité de modifier les règles du jeu sur les fonctionnements des banques, devant notamment la dangerosité d'un certain nombre de marchés, et que là, aucune réforme de fonds n'a vraiment été faite pour cela. Et ce que nous avons encore à apprendre, eh bien, évidemment, c'est faire face à la crise énergétique, à la crise de la demande globale, à la crise écologique, avec cette affirmation forte, bien, que le mythe de la croissance indéfinie est terminé, et qu'il faut que, finalement, ça rentre un peu dans nos esprits, qu'il faut donc inventer autre chose, avec sûrement un autre mode de socialisation, que tout est à inventer, donc qu'il faut bien continuer la réflexion. Alors, avant que l'on passe la parole à la salle, je vais redonner très très rapidement, très brièvement, la parole à Monsieur Bavrez, qui a, je pense peut-être, sur tel ou tel point, je le sens, une perception peut-être un petit peu différente.
Non, mais je serai très bref, parce que l'intérêt, c'est d'ouvrir la discussion, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une contradiction. On ne peut pas être pour la loi de Malthus et contre la décroissance. Malthus, c'est clair que si on accepte le raisonnement de Malthus, on accepte la décroissance. Et à mon avis, c'est une erreur fondamentale, parce que Malthus lui-même, justement, s'est trompé, parce qu'il sous-estimait, comme Marx, ce que c'était que le gain de productivité, qui permet justement d'avoir plus d'hommes, avec un niveau de vie qui soit supérieur, et d'éviter effectivement cette espèce de loi des reins qui fait que on aurait une régulation soit par la baisse des salaires, et ça on a bien vu que c'était pas vrai, sauf en économie soviétique, ou alors effectivement par la mortalité, ça c'était les économies pré-capitalistes. Donc moi je crois que la croissance peut être illimitée, avec une chose très importante qu'il faut comprendre, c'est que je pense que ce qui a été dit mélange la quantité et la qualité. Donc, autrement dit, la Chine peut se développer aujourd'hui parce que, précisément, son mode de développement n'a rien à voir avec ce qui a été le mode de développement des économies européennes au XIXe siècle. Et donc, cette croissance, elle se modifie au fur et à mesure de manière qualitative. Donc, si effectivement, on doit avoir des voitures, des Hummers dans tous les ménages chinois, ça c'est sûr que on est mal parti. Mais chacun voit bien que on peut aujourd'hui essayer de faire des voitures qui sont des hybrides, etc., qui sont différentes. Donc j'insiste, bien sûr, ce qui a été dit sur les énergies fossiles est vrai, mais il ne faut pas sous-estimer la capacité de répondre avec de la technologie, des gains de productivité. Je finirai par là sur la fameuse croissance verte. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui nous, on fait les quotas et les taxes, mais aujourd'hui, les leaders sur l'économie verte, les gens qui font les produits, la recherche, ce sont les Chinois, leaders sur le solaire, leaders sur l'éolien, leaders sur le solaire alternatif, et la Californie. et que il y a des efforts de recherche qui sont très importants. Donc, il ne s'agit pas effectivement de, si on essaye de dupliquer le mode de vie américain sur la planète entière, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les gens, à juste titre, n'en veulent pas parce qu'il y a des cultures qui sont très différentes. Mais il est possible donc d'échapper à ce genre de contradictions et à ce genre et à ce genre d'engrenage. Je rappellerai juste ces chiffres qui montrent bien que la Chine fait quelque chose aujourd'hui qu'on n'a jamais fait. C'était 25% du PIB mondial en 1700, ils sont descendus à 3% en 1975, ils sont revenus à 9% aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu en trois générations une accélération pareille. Pour vous donner des idées, hein, aujourd'hui un Chinois en parité de pouvoir d'achat, c'est 6 500 $, alors que c'était bien inférieur avant, contre 45 000 aux États-Unis, 36 000 en Europe. Il y a 45 voitures pour 1000 Chinois, il y en a 650 pour 1000 Européens, il y en a 880 pour 1000 Américains. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre 880 voitures américaines par 1000 habitants en Chine. C'est pas du tout ça le but. Mais pour moi, l'idée de la loi de Malthus est une idée, pour le coup, qui est une idée vraiment européenne de continent vieillissant, malthusien, déclinant.
Bien, merci. Je crois qu'on a bien compris là le message. Alors, Gaël aura l'occasion dans les...
Juste un mot là-dessus, c'est que par ailleurs, on a eu la démonstration à Copenhague. C'est-à-dire, c'est exactement ça qu'on leur a dit. Et les Chinois et les Américains nous ont répondu à tort ou à raison. Oui, l'environnement est quelque chose de sérieux. Mais si vous voulez qu'on arrête de croître, qu'on arrête les efforts technologiques à cause de l'environnement, non.
Merci, Monsieur Barrez. Gaël Giraud aura l'occasion de préciser sa pensée dans la réponse aux questions, parce qu'il est temps maintenant que ce soit à vous qui puissiez poser vos questions. Et je vais donner le micro à Yves, qui a spontanément accepté de le faire passer. Merci. Alors, on recueille quelques convictions et questions tout au fond là-bas, en essayant à chaque fois d'être bref dans l'intervention pour que on puisse en entendre un maximum.
Oui, ma question s'adresse à Nicolas Bavrez. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu plus votre scénario d'implosion?
Voilà, on va prendre peut-être l'une ou l'autre. Oui. Mademoiselle.
Oui, c'est la même question en fait, parce que le scénario d'implosion, vous parliez de l'Europe, hein, mais on peut l'étendre aussi à des régulations internationales, type OMC ou d'autres, par exemple. Donc, quel est votre avis? Merci.
Merci. Une autre intervention par là.
Alors, pour continuer sur le mode pessimiste, implosion, donc peut-être la Grèce, demain l'Espagne, à quand la France?
Voilà, et puis une toute dernière devant. Attendez, le micro arrive.
Vous avez évoqué, M. Bavérez, ce capitalisme qui est devenu universel. Effectivement, et il est devenu capitalisme financier international au niveau de l'Occident, hein, avec centré sur Washington, New York et Londres. Face à ça, comment voyez-vous le capitalisme chinois? Est-ce qu'on peut parler d'un capitalisme d'État? Et comment vont coexister, si oui, comment vont exister ces deux capitalismes?
Voilà, M. Bavrez, vous avez la parole.
Oui, comme diraient nos amis d'attaque, c'est un échange inégal. Je ne vais pas être le seul à répondre et à vous parler.
Il parlera aussi.
Donc, implosion, il y a deux scénarios pour l'implosion. Le premier, le plus probable, c'est, il rejoint directement votre remarque sur l'OMC, c'est-à-dire, comme dans les années 30, dévaluation compétitive en cascade et protectionnisme. Donc ça, on segmente complètement l'espace mondial. Je rappelle que dans les années 30, le commerce mondial a reculé des trois quarts, hein, de 75% sur les... Donc ça, c'est la fin de la mondialisation parce que c'était fondé sur l'ouverture des frontières, la libéralisation, les technologies des transports, etc. Une fois que j'ai remis des frontières économiques partout, clairement, la dynamique est cassée. Ça, c'est le premier scénario. Il y a un deuxième scénario qui est le fait que on est donc de retour à l'économie de bulle avec les taux zéro, si on n'arrive pas à normaliser les politiques économiques, il est clair qu'on va avoir un nouveau choc. Est-ce qu'il sera exactement le même que Lehman? Je ne sais pas, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que cette fois, il n'y a plus de moyens de protection. Tant qu'on n'a pas rétabli un minimum les finances publiques dans le monde développé, tant qu'on n'a pas purgé les banques centrales, que si vous prenez la Fed, par exemple, son bilan est passé de 8000 à 4500 milliards de dollars, de 800 à 4500 milliards de dollars, ça fait 40% du PIB américain. Il y a 3/5 d'actifs toxiques là-dedans, alors qu'ils sont, au fur et à mesure que les marchés reprennent, ça devient un peu moins toxique, on les sort progressivement. Mais vous voyez bien que si on doit avoir un nouveau choc majeur sur le capitalisme, c'est clair qu'on ne va pas faire passer les dettes publiques de 120 à 250% du PIB et que tout va bien se passer. Donc c'est le deuxième scénario d'implosion qui se traduirait de toute façon par le retour du protectionnisme, puisque là, chacun se rapatrierait dans son pays et on aurait encore plus le protectionnisme financier qu'on a vu. Voilà donc les deux scénarios qu'on peut envisager. Sur le capitalisme universel, oui, vous avez raison de dire, c'est le... Donc la Chine... C'est un total capitalisme, ou en tout cas un capitalisme autoritaire, c'est-à-dire qu'il y a quand même de plus en plus de liberté économique, mais il y a un contrôle de la société, il y a évidemment un contrôle politique, et puis il y a un contrôle également technologique, voire les démêlés sur Internet. Je pense que le régime chinois, lui, il est donc obsédé par deux choses. Trois même. Donc, la première, c'est le développement, parce que c'est la condition de leur survie. Tant que les Chinois ont un niveau de vie qui progresse, même avec leur monnaie surévaluée, donc avec une consommation. La consommation chinoise, elle est passée de 45 à 35% du PIB en 10 ans. Hein, donc, mais si vous voulez, quand on progresse de 10% par an, il n'empêche que même avec cet effet-là, le Chinois vit beaucoup mieux année après année. Tant que ça dure, c'est leur première source de légitimité. Deuxième source de légitimité, le nationalisme. Et troisième source, l'unité du pays, voire les histoires du Tibet, le Xinjiang, et puis aujourd'hui la tension sur Taïwan. C'est ça les trois piliers du parti communiste. Donc, tant qu'ils sont capables de fournir ça, c'est vrai qu'ils pourront durer. Est-ce qu'ils commenceront à introduire un peu de pluralisme à l'intérieur du parti? C'est possible. Vous avez un exemple célèbre et que j'adore, c'est le Mexique, avec un parti unique remarquable qui s'appelait le Parti Révolutionnaire Institutionnel, PRI. Vous voyez que le révolutionnaire et l'institutionnel est une coexistence qui mérite de... Bon. Les Chinois peuvent, vous avez déjà des gens extrêmement divers entre ceux des zones côtières et les autres. Bon. Donc, ça, c'est pour la Chine. Pour le et donc, leur grand problème, c'est effectivement de gérer les tensions à l'intérieur de l'Empire, les tensions économiques. Shanghai est une ville qui est maintenant parmi les plus chères du monde et qui est une grande mégalopole, mais dès que vous allez un peu à l'intérieur des terres, vous avez encore des gens qui vivent comme au temps de la révolution culturelle. Il y a les tensions entre les riches et les pauvres, il y a les tensions entre ceux qui appartiennent au Parti communiste et les autres, il y a la corruption, il y a les... Bref, il y a aussi beaucoup de problèmes à régler. Il y a des bulles spéculatives en Chine sur l'immobilier, sur les capacités industrielles, mais ils ont montré qu'ils avaient une grande capacité pour l'instant à piloter cet ensemble extrêmement complexe. Ce qui est vrai, je le répète, hein, c'est que le capitalisme va effectivement vivre dans ces systèmes très divers, et c'est plus l'Occident qui fera la décision seul. Et ça, c'est vrai que c'est Copenhague qui l'a bien montré, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Sud est capable, sur une négociation majeure, de dire, écoutez, non, et si le Sud dit non, eh bien, ça ne se fait pas. C'est quelque chose de vraiment neuf, auquel nous ne sommes pas du tout habitués. Regardez, par exemple, la manière dont les économistes présentent généralement les statistiques mondiales. On dit le monde, et puis on commence classiquement, c'est-à-dire on prend États-Unis, Japon, Europe, et puis ensuite la Chine. Mais c'est plus du tout cet ordre-là. Aujourd'hui, la croissance mondiale, je vous l'ai dit, l'année prochaine, ça sera 10% en Chine, 1% dans les pays développés, 2,2% aux États-Unis. Donc aujourd'hui, n'importe quel économiste responsable, quand il présente la croissance mondiale, il devrait commencer par la Chine, certainement numéro 1, ensuite les émergents, Inde, Brésil, etc., ensuite les États-Unis, et puis l'Europe en queue de peloton. Mais vous voyez que ça suppose un retournement des esprits, qui est vraiment considérable. Donc nous allons vivre avec des confrontations, parce que ça se fera, vous voyez, c'est pas seulement un problème de croissance, mais c'est bien des télescopages de systèmes de valeurs, d'institutions, de reconnaissance ou pas de l'état de droit, et puis il y a des problèmes économiques sérieux. Par exemple, la Chine est maintenant la deuxième puissance économique du monde, le premier exportateur, que ce pays n'ait ni état de droit, donc pas de reconnaissance de la propriété intellectuelle ou quoi que ce soit, ni monnaie convertible, ça c'est vrai que ça ne pourra pas durer la vie entière. La question sur la Grèce, donc vous savez que les marchés, qui sont toujours élégants, ont trouvé un acronyme extrêmement sympathique pour les pays méditerranéens, qui est les PIGS, Portugal, Italie, Greece and Spain. A priori, dans leur vocabulaire, ce sont les PIGS qui sont d'abord en ligne de mire. On peut rajouter donc l'Irlande, même si macroéconomiquement elle est beaucoup plus... elle est beaucoup mieux gérée. Bon, il faut voir que dans l'histoire grecque, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que les Grecs s'étaient foutus du monde dans des conditions qui dépassaient l'entendement. Tous les comptes sont faux depuis des années, il n'y a rien de vrai. Tous les engagements qu'ils ont pris, alors vous me direz que ce n'est pas les seuls et que notre pays a fait aussi très fort dans ce domaine, mais ils n'ont jamais rien respecté. Et donc c'est quand même difficile aujourd'hui de les croire, et c'est normal qu'on s'interroge par ailleurs sur une économie qui est une économie de pure rente et qui a un niveau de dette considérable et avec de vrais doutes sur la capacité de rembourser. Deuxième bonne nouvelle, c'est que ça nous permet à tous de commencer à prendre les dettes publiques au sérieux. Et on doit tous se secouer pour contrôler les dépenses, augmenter de manière raisonnable les impôts sans casser la croissance, et surtout essayer de trouver un peu de croissance. Troisième bonne nouvelle, c'est que ça fait baisser l'euro, qui était notoirement surévalué. Et donc, vous voyez que ça ramène quand même un certain nombre de choses au réel. Alors, les mauvaises nouvelles, c'est que, et j'en reviens à votre question, il est clair qu'il y a... Quand on commence à rentrer dans ce genre-là avec la dynamique des marchés qui a été rappelée, il y a un risque de contagion. Donc il y a un risque de contagion au sein de la zone euro. Elle est de plus en plus divergente. Elle n'est soutenue que par l'Allemagne, réassurée par l'Allemagne et par l'industrie allemande. Il n'y a aucune règle qui permette, dans le langage, de faire un bail-out, ou en tout cas de venir vraiment au soutien pour la Grèce, puisque même les règles de l'euro, théoriquement, interdisent et à la Banque centrale et à l'Union européenne de venir au secours d'un État qui se retrouverait en crise aiguë de balance des paiements. Donc, nous sommes renvoyés, si vous voulez, à un certain nombre de questions structurelles sur l'euro. C'est vrai que nous avons bénéficié, là encore, d'une mutualisation des risques. Ça a été une espèce de sécurité sociale monétaire. On l'a utilisé pour faire beaucoup de bêtises, y compris dans notre pays. La Grèce est la première à être rattrapée, mais ça sera pas la seule.
Gaël, très brièvement, si c'est possible.
Oui, je reviens sur la question de la Grèce. Je pense que ça nous renvoie à la question de la construction politique européenne, au sens où je crois que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la Grèce faire défaut. Si la Grèce devait faire défaut, ce serait certainement pour nous, Européens, un cataclysme analogue à ce qu'a été pour les États-Unis la chute de Lehman Brothers, ce qui voudrait dire une nouvelle catastrophe financière, certainement. L'intrusion, par exemple, du FMI dans la Grèce, ça voudrait dire la fin de l'autonomie monétaire de la zone euro. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas se le permettre. Donc, alors c'est vrai que les traités sont assez embêtants sur cette question. N'empêche qu'il y a plein de solutions qui sont actuellement en négociation. Par exemple, des accords bilatéraux de la France, de l'Allemagne, qui permettraient d'aider la Grèce, ou bien des avances sur les fonds structurels que l'Europe accorde à la Grèce. Bon. Et tout ceci étant conditionnel, évidemment, aux efforts que le gouvernement actuel, en tout cas, promet de faire pour rééquilibrer son propre déficit public. Voilà. Je crois que l'essentiel dans cette question, c'est de comprendre deux choses. La première, c'est que ce dont il est question là, c'est de la souveraineté politique d'un État. Et je crois que la question qu'on doit poser, c'est est-il légitime que des marchés financiers soumis à des tâches solaires puissent en décider quant à la souveraineté politique d'un État ? Ça, c'est une question politique, c'est pas une question économique. Et la deuxième, c'est si nous voulons faire en sorte que la catastrophe grecque ne puisse pas arriver, il faut qu'il y ait une véritable concertation économique. Donc, à titre personnel, je reprendrai la proposition qui avait été faite il y a quelques mois par Nicolas Sarkozy, qui est la construction d'un véritable gouvernement économique européen, qui permette à la fois d'imposer efficacement, puisqu'on a bien vu jusqu'à présent que ça n'était pas le cas, des règles budgétaires un peu plus saines à des pays comme la Grèce, et aussi au Portugal, à l'Espagne, à l'Italie et à l'Irlande, et en même temps de négocier des aides, puisque la solution n'est certainement pas de laisser la Grèce faire faillite. Je redirai juste encore un autre mot, excuse-moi, à propos du scénario de l'implosion. Il y a un autre élément, me semble-t-il, tout à fait inquiétant sur cette question, c'est la survivance des actifs pourris dans les bilans des banques. Je réexplique juste ça en une minute. La raison pour laquelle, peut-être ça vous a frappé, comment se fait-il que les banques qui étaient quasiment toutes au bord de la faillite à la fin 2008, à partir de 2009, ont recommencé à faire des profits, de manière miraculeuse. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que à l'automne 2008, le régulateur qui s'occupe des normes comptables des banques, entre autres, ou qui se trouve à Bâle, qui est un organisme privé, l'IASB, sous la pression des banques, a modifié le régime comptable des actifs pourris des banques, de manière qu'elles ne soient plus obligées d'enregistrer les pertes qu'elles faisaient à cause de ces actifs pourris. Donc, une partie du profit, des profits de nouveau colossaux que font les banques aujourd'hui, est due au fait qu'on ne comptabilise plus les pertes. Simplement, les actifs pourris eux-mêmes n'ont pas disparu. À l'époque, fin 2008, le régulateur comptable se disait « on met en place un régime d'exception, mais c'est provisoire, ça durera quelques mois, et puis on va construire une banque de défaisance, une bad bank publique, qui sera chargée de récupérer tous ces actifs toxiques, et une fois que les banques privées auront assaini leur bilan, on pourra revenir à la comptabilité d'antan ». Simplement, on s'est rendu compte entre-temps, printemps 2009, que le scénario de la bad bank n'était pas réalisable, parce que, pour ainsi dire, les actifs pourris sont tellement nombreux que c'est un peu comme les métastases d'un cancer. Si vous retirez les métastases, vous tuez le patient. Donc on a renoncé au scénario de la bad bank et du coup on a prolongé le régime d'exception comptable. Alors l'IASB, donc l'organisme, le régulateur comptable, est actuellement en train de réécrire ses normes. Il y a une énorme activité, disons, de réflexion et de rédaction pour réviser ces normes, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient joué un rôle déplorable pendant la crise. N'empêche qu'aujourd'hui, la vérité comptable des banques, c'est qu'une bonne partie d'entre elles sont toujours potentiellement en faillite et qu'il faudra bien un jour que ces fameux actifs toxiques dont on masque aujourd'hui la dangerosité ressurgissent. Soit qu'on en tienne véritablement compte en termes de bilan, soit que les banques les sortent de leur bilan. Et ce jour-là, ça pourrait de nouveau provoquer une implosion.
Merci. Nous reprenons un tour de questions. Ici. Et puis après là-bas. Allez-y, et puis après vous passerez. Allez-y.
Bonsoir. Est-ce que vous pourriez revenir sur la révolution mentale et ce que vous proposeriez pour remplacer ce mythe de la croissance indéfinie ?
Ah bien, derrière.
Moi, je reviens sur les marchés opaques des actifs dérivés. Vous dites que Barack Obama n'a pas eu peut-être le courage politique de proposer leur suppression. Qui a autorité pour créer un marché, pour le supprimer? Voilà, est-ce qu'il faut une unanimité mondiale comment s'exercent les lobbies financiers sur le politique pour ralentir la...
Et puis on va prendre une dernière question par ici. Au cinquième rang. Voilà.
Oui, bonsoir. Donc la question s'adresse plus particulièrement à Gaël Giraud. Je reviens sur ce que vous aviez dit. Il y a un certain nombre de points sur lesquels nous n'avons pas appris. Vous avez parlé, première chose, vous avez cité l'écologie, notamment l'empreinte écologique. De facto, l'empreinte écologique va faire que quelque part, nous allons, il me semble, devoir donner un coup d'arrêt à la croissance, au plan planétaire bien évidemment. Au niveau énergétique, je pense qu'il est inutile que nous revenions sur ce point. On va vers l'explosion, une rupture, hein, où la demande sera largement supérieure à l'offre. Et d'autre part, la demande globale. Alors, vous avez dit, je ne suis pas partisan de la décroissance. Donc, il faut inventer un nouveau mode de socialisation. J'ai lu un bouquin qui s'appelait « Décroissance pour tous » et on parle dans cet ouvrage d'économie circulaire, c'est-à-dire moins d'utilisation de matières premières, moins d'énergie, durabilité, réparabilité des produits et recyclage, ce qui permet de créer des emplois de proximité. Je voudrais que vous disiez si vous ne pensez pas que ceci constitue une réponse. Excusez-moi de la longueur de la question.
Merci.
Je réponds par la question peut-être apparemment la plus facile, la deuxième, d'abord, puis ensuite j'aborderai les autres, la question de la régulation des marchés financiers. En fait, vous avez des autorités des marchés financiers qui peuvent édicter un certain nombre de règles. C'est techniquement tout à fait faisable que, au niveau de la zone euro, au niveau de la zone anglo-saxonne, vous ayez ces autorités appuyées par le politique qui imposent la mise en place de ce qu'on appelle des chambres de compensation, c'est-à-dire des institutions centralisées, qui centralisent l'offre et la demande sur les marchés financiers, qui vérifient que les gens sont à peu près solvables, qui obligent les intervenants à faire un dépôt de garantie pour le cas où ils feraient défaut, et qui comptabilisent surtout ce qui se passe. Une chambre de compensation qui est tristement célèbre en France aujourd'hui, c'est Clearstream. Chambre de compensation luxembourgeoise, qui sert une grande partie des échanges financiers internes à l'Europe aujourd'hui. Oui. La question, c'est pourquoi Barack Obama ne le fait pas. En réalité, ces questions-là sont en négociation depuis plus d'un an, mais elles se traitent marché par marché. Parce que, évidemment, les financiers, en particulier les banquiers, ils sont relativement hostiles dans la mesure où c'est précisément, en tout cas la plupart du temps, sur ces marchés opaques, non régulés par des chambres de compensation, qu'ils font la plus grande part de leurs profits. Alors, je peux vous dire actuellement que la question de la réglementation par des chambres de compensation des marchés dérivés sur les dérivés du pétrole est très avancée. Et la France, d'ailleurs, est en pointe sur cette question. Christine Lagarde a envoyé des gens, notamment l'un des co-auteurs de notre ouvrage sur les 20 propositions, qui fait partie, c'est comme ça que je le sais, qui fait partie donc de la task force, pour parler comme les Américains, qui réfléchit sur cette question-là, et la réflexion est très avancée. Vous voyez ? Alors pourquoi sur les dérivés sur le pétrole ? Parce que vous avez certainement vu que le prix du pétrole a fait le yo-yo l'an dernier, puis en 2008, pas du tout pour des raisons liées à l'offre et à la demande réelle de pétrole, mais parce qu'il y avait des spéculateurs qui, via ces actifs dérivés, faisaient faire le yo-yo au prix du pétrole. Donc ça nous inquiète beaucoup, et donc là, il y a une véritable volonté pour avancer, et les financiers sont obligés de baisser un peu leur garde sur cette question. Il y a plein d'autres marchés dérivés sur lesquels ils entendent absolument ne pas lâcher quoi que ce soit. La question des CDS sur la dette souveraine, par exemple, pour l'instant n'est pas du tout à l'ordre du jour que je sache. Vous voyez ? J'ai répondu à la question à peu près. Alors, je réponds en même temps aux deux questions. Ça me permet de dire un mot sur ce qu'avait dit M. Bavrès tout à l'heure. Voilà, je sais que ça peut paraître paradoxal, au sens où je ne crois pas aux théories de la décroissance telles qu'on les a développées depuis le début des années 70, qui diraient, voyez, la décroissance est le bonheur pour tous, arrêtons d'avoir une télévision dans chaque chambre et on sera plus heureux. C'est vrai qu'à mon avis, on sera plus heureux si on n'a plus une télévision dans chaque chambre, mais le problème, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du chômage. Voilà. Alors, je suis assez séduit par les idées que vous avez évoquées de manière très très rapide, que développe beaucoup plus, tout à fait en détail, un Jeremy Rifkin, qui est un Américain, mais il n'est pas le seul, qui tourne autour, disons, de l'idée que la contrainte écologique, en gros, des énergies non renouvelables, nous oblige à essayer de penser une économie dans laquelle, à chaque instant, de manière idéale, nous ne détruisons pas plus que ce que nous produisons. C'est l'idée tout à fait des maisons qui sont à énergie positive. Là, c'est encore mieux, elles sont à énergie positive. C'est-à-dire que, au lieu de détruire de l'énergie renouvelable, elles en produisent. Bon. Mais l'idée, c'est que, au lieu de rêver d'une économie dont le PIB, ou n'importe quel autre indicateur du même type, puisse continuer de croître chaque année, essayons d'imaginer des économies dans lesquelles on soit, disons, dans un circuit qui, au niveau de l'énergie renouvelable, soit constant, soit stable. Voilà. Après, comment le décliner concrètement, c'est très difficile. On balbutie complètement sur cette question, me semble-t-il. Ce qui est clair, en tout cas, du côté des urbanistes, par exemple, c'est que ça va nous obliger à concevoir de manière tout à fait différente nos villes, puisqu'il va falloir concevoir des villes extrêmement denses, extrêmement concentrées, avec essentiellement des transports urbains. Il sera impossible d'imaginer de nouveau continuer la banlieue californienne où tout le monde se déplace en voiture et chaque ménage a deux voitures, etc. Tout ça, voilà. Donc ça suppose de repenser complètement donc l'organisation de nos villes. Et une des pistes pour essayer de mettre ça en œuvre au niveau institutionnel, c'est ce que certains appellent les économies de fonctionnalité, ou ce qu'on pourrait appeler, d'un mot un peu plus, me semble-t-il, attrayant, les économies de biens partagés. J'explique en un mot de quoi il s'agit. En gros, c'est le principe de l'ascenseur. Dans une copropriété qui va investir dans un ascenseur. Tout le monde, tous les copropriétaires mettent de l'argent pour qu'on achète l'ascenseur, enfin qu'on le construise. Ceux qui vivent au rez-de-chaussée, qui vont probablement pas l'utiliser, ne payent pas ou payent très peu. Ceux qui vivent au dernier étage, qui vont l'utiliser le plus fréquemment, le plus intensément, payent davantage. Donc c'est l'idée que vous avez un bien qui est commun à tous, qui est possédé collectivement par tout le monde et dont on finance le coût de production au prorata de l'usage qu'on en fait. Un autre exemple, c'est le Vélib à Paris ou le Vélov à Lyon. Vous voyez, c'est des biens privés, produits par une entreprise privée, mais pour lesquels chacun paye en fonction de l'usage qu'il en fait. Si je reste 2 heures sur mon vélo, je paye un peu plus que si je reste 10 minutes. Ça pose là aussi d'immenses problèmes. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution voilà, clé en main de toutes ces questions-là, mais ce sont des pistes qui me semblent intéressantes. Vous voyez, conjuguer une réorganisation des circuits de production de manière qu'on puisse produire et consommer à l'énergie renouvelable constante, et organiser au niveau institutionnel des biens partagés qui nous permettent de les économiser. Ça, c'est la révolution mentale, c'est une révolution mentale possible.
Voilà, peut-être vous désirez répondre sur ce point très brièvement.
Non, je crois que j'avais déjà donné mon sentiment, donc s'il y a encore des questions, je pense que c'est mieux de
alors,
prolonger.
Comme il est 9h10, on va en rester là, mais je voudrais juste quand même terminer par une question à nos deux invités, très courte, pour pas rester peut-être sur ce sentiment un peu d'un pessimisme ambiant qui nous écrase, enfin qui moi peut m'écraser, peut-être pas vous, mais alors, qu'est-ce qui nous est permis... Très rapidement, je sais que c'est très difficile comme question. Qu'est-ce qui nous est permis d'espérer? C'est une question qu'on aime bien se poser ici au Centre Sèvres. Hein? Qu'est-ce qui peut nous permettre quand même de rester sans naïveté, avec un certain optimisme qui nous donne aussi envie de faire bouger les choses? Alors, voilà. Rapidement.
Oh, mais moi, je répondrais très simplement que dans les chiffres que je vous ai donnés, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Que la Chine connaisse 10% de croissance par an, c'est vrai que ça crée des problèmes pour des pays qui ont vécu beaucoup de leur rente, hein, ça oblige à se remettre en question, mais c'est une excellente nouvelle. Qu'il y ait des centaines de millions de gens qui sortent aujourd'hui de la pauvreté, du sous-développement, qui... Quand vous allez aujourd'hui dans une usine en Chine, tous les gens qui ont plus de 40 ans ont mangé des racines pendant la révolution culturelle, tous. Il n'y en a pas un qui n'ait pas connu ça, quel que soit aujourd'hui son niveau de responsabilité. Donc quand vous voyez leurs enfants qui, effectivement, ont des conditions qui sont très différentes, on ne peut pas dire que c'est un monde... alors c'est pas le monde de la décroissance, c'est vrai, mais c'est pas du tout... C'est un monde où il se passe beaucoup de choses qui sont tout à fait intéressantes. Donc cette émergence du Sud, c'est vrai qu'elle bouscule nos vieilles nations... C'est vrai que c'est pas agréable, mais fondamentalement, c'est un progrès économique, c'est un progrès politique. Alors, on verra comment ça s'harmonise avec la liberté politique à terme, et ça, c'est vrai que c'est un des grands clivages entre les fameux BRICS, c'est-à-dire qu'on a la Russie et la Chine qui refusent la liberté, pour la Russie qui est aussi un non-sens économique en plus, mais et l'Inde et le Brésil qui, eux, sont des pays et des nations libres, même s'ils ont évidemment des problèmes importants. Donc, c'est un des grands... c'est une des grandes questions du XXIe siècle, mais... Et puis c'est un progrès surtout humain et moral. Donc ça, c'est vraiment tout à fait positif. Je pense que la responsabilité de l'Occident, elle est... Parce que le XXe siècle, ça a été le match entre la démocratie et le totalitarisme. Le XXIe siècle, et donc entre également deux formes d'économie, capitalisme, les économies planifiées. Le XXIe siècle, ça va être... le match entre des nations libres et puis des pays qui refusent la liberté avec des formes d'autoritarisme plus ou moins là, pour savoir lesquels gèrent le mieux le capitalisme. Bon, ce match, il n'est pas perdu d'avance par les démocraties, et donc, mais simplement, comme tout match et comme tout, il faut être prêt à le livrer, et pour le livrer, il faut se remettre en question et essayer d'être bon. Pour revenir juste une seconde sur l'Europe et vous dire qu'il n'y a pas matière à désespérer, regardez l'Allemagne. L'Allemagne est redevenue, bon, elle s'est de nouveau fait passer devant par la Chine, mais l'Allemagne est redevenue la meilleure économie industrielle du monde. Elle est redevenue, à un moment donné, le premier exportateur du monde. Ce sont nos voisins. Ils sont, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas plus facile de faire des réformes en Allemagne qu'en France. Ça montre bien qu'un pays qui est assez, qui est tout proche d'une autre, qui est assez comparable avec ses pesanteurs, ses surcoûts et c'est tout ce qu'on veut, est capable d'exceller dans ce nouvel univers du capitalisme universel et de la société ouverte. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que la volonté, le courage, l'intelligence des hommes qui fassent la décision.
Je mettrai pour ma part l'accent sur la dimension de l'éthique collective. Il me semble que la crise de l'an dernier, de 2008, nous a fait redécouvrir, en tout cas un certain nombre d'entre nous, la dimension collective de la question éthique. Voilà. Et que, pour ma part, ce qui me donne des raisons d'espérer, c'est notre aptitude à tous, êtres humains, en société, à nous saisir ensemble des problèmes collectifs. On peut dire quand même, le G20, c'est sûr que Il est lui-même complètement opaque, il n'est pas rattaché à l'ONU, on ne sait pas comment les décisions y sont prises. Il ressemble en fait à un G2 un peu déguisé, où essentiellement les États-Unis et la Chine règlent leurs problèmes. N'empêche qu'il a, le mérite d'exister. Le congrès de Copenhague, c'est sûr que pour les écologistes, c'est un cinglant échec. N'empêche qu'il a, il y a quand même un certain nombre de textes qui sont sortis de Copenhague qui vont faire référence dans les 15 prochaines années. Nous apprenons, lentement, malheureusement, mais nous apprenons quand même à dialoguer ensemble et à prendre des décisions collectives. Je crois que c'est ça qui est le plus heureux dans cette affaire. Et l'Union européenne est quand même la preuve, par l'exemple, que c'est possible de travailler ensemble.
Je voudrais vous remercier au nom de tous de votre présence, Monsieur Bavrez, Gaël Giraud, de votre... De la richesse des échanges et de la diversité des opinions. Je crois que c'est comme ça qu'on avance dans la réflexion. Je voudrais, juste avant qu'on se quitte, vous informer que la prochaine session nationale de formation du CERAS, précisément, aura pour thème « De la crise, sortir changé ». Elle aura lieu dans quelques jours, du 15 au 18 février, ici au Centre Sèvres, avec, entre autres, la participation de Gaël Giraud et de nombreux autres intervenants. Voilà, je crois que le tract est à votre disposition à la sortie. Tout près des urnes, vous pourrez déposer votre libre participation aux frais. Ça me permet aussi de vous annoncer les prochains sujets. Sans doute, c'est pas encore complètement calé. Dans quel état est la justice de notre pays? Aïe, aïe. Où va l'Europe? Des sujets, évidemment, pour soutenir notre optimisme. Merci de votre fidélité. À très bientôt, au mois prochain. Bonne soirée.